Bonsoir. La CENI a prolongé jusqu'au 30 mai prochain les opérations de dépôt des candidatures à l'élection des députés provinciaux. Au cours d'une séance plénière extraordinaire hier lundi à Kinshasa, la CENI a fait observer que sur 8000 formulaires récupérés, seules 2000 candidatures ont été déposées sur toute l'étendue de la RDC. Quelle analyse faire de cette nouvelle prolongation? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Jérôme Bonso. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Alain, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix, Radio Capi.
Merci, vous êtes président de la Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, également coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA. Professeur Joseph Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur Emmanuel Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste et professeur en philosophie politique de l'Université pédagogique nationale UPN. Merci à tous de nous recevoir chez vous et bienvenue également dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, la CENI a prolongé les opérations de dépôt des candidatures à la députation provinciale jusqu'au 30 mai prochain. Décision prise au cours d'une séance plénière extraordinaire ce lundi à Kinshasa. La CENI a fait observer que sur 8000 formulaires récupérés, 2000 candidatures seulement ont été déposées sur toute l'étendue de la RDC. On écoute Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, au micro de Michel Kifindangoy.
Après l'analyse approfondie du rapport de monitoring, les statistiques indiquent que sur les 171 bureaux de réception et traitement des candidatures, les quelques bureaux qui n'avaient pas encore enregistré un seul dossier venaient de les voir cet après-midi. Mais compte tenu des difficultés réelles, des multiples demandes et sollicitations tant des partis politiques que des regroupements politiques, et compte tenu des rapports réels reçus, principalement les cas de traçage de paiements effectués en dehors des circonscriptions des candidats, elle vient de prendre la décision portant prolongation du délai de l'inscription des candidats pour l'élection des députés provinciaux.
Cette prolongation n'est pas du goût de l'opposition. De peur, estime-t-elle qu'il n'y ait glissement du calendrier électoral. On écoute José Makila, leader du parti ATD de l'opposition, le dire au micro de Jeff Ngoy.
L'opposition, elle est prête pour aller aux élections provinciales. Nous avons terminé toutes les candidatures à travers la République. Nous ne voulons pas d'une prolongation quelconque, même pas de 5 minutes. Donc, si la CENI veut être un agent causal de la prolongation ou du glissement, nous le reconnaîtrons aujourd'hui. Parce que accepter que le dépôt de candidature puisse se prolonger à la date d'aujourd'hui, c'est accepter aussi le glissement.
De son côté, la majorité estime que la CENI est une institution indépendante qui a la latitude de prolonger les délais si elle le juge opportun. On écoute Ramazani Chadari du PPRD l'expliquer au micro de Jeff Ngoy.
Nous nous sommes mis d'accord, et la majorité et l'opposition, aucun groupe n'est demandeur de report ou de prolongation de la date de délai de dépôt des candidatures. Mais les deux groupes ont également estimé que comme c'est la CENI qui est pouvoir organisateur et que tout cela relève de ses compétences, nous laissons cette possibilité à la CENI de pouvoir prolonger de 4-5 jours, tout dépendra de la CENI.
La CENI informe en outre que le début de dépôt des candidatures pour les élections municipales et locales est reporté en attendant l'adoption et la promulgation de la loi portant répartition des sièges. Jérôme Bonso, vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, également coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Comment vous analysez cette nouvelle prolongation?
Merci, Monsieur Alain. Je tiens à saluer tous les nombreux auditeurs de la radio Okapi, je l'ai dit au départ. Suite à votre question, comment nous analysons cela? Et ça nous ramène à l'idée de voir que le processus électoral congolais est plongé dans les tumultes, dans des contradictions, dans des polémiques, dans des contestations. Et cela augure le lendemain trop sombre. Trop sombre en ce qui concerne le pouce électoral dans notre pays. Parce que nous l'avons dit que la débâcle électorale des élections de 2006 et 2011 était due au déficit de planification des échéances électorales. Qui n'a pas tenu compte de deux facteurs importants quand on organise les élections. Facteur temps et facteur moyen financier. On avait demandé au pouvoir organisateur des élections, la Commission électorale nationale indépendante, de présenter un calendrier électoral. En date du 26 mai 2015, la CENI avait présenté un calendrier électoral partiel, avec un certain nombre d'exigences. Et de toutes ces exigences, il y en avait 8, il n'y avait qu'une exigence, l'exigence financière, qui a été exécutée à 10 ou 15%. Et aujourd'hui, la CENI a présenté un calendrier électoral global. Et ce calendrier électoral global devrait tenir compte de deux paramètres, facteur temps et moyens financiers. Mais la CENI l'a rendu public en date du 12 février 2015 sans avoir le moyen financier à sa main. La CENI n'a pas tenu compte. On a vu dans le calendrier, il y a facteur temps. Et ce facteur temps n'est pas respecté. Et dans ce calendrier, la CENI a responsabilisé les institutions. Institution président de la République, institution Assemblée nationale et Sénat, institution gouvernement et d'autres parties prenantes au processus électoral. À l'heure qu'il est aujourd'hui, quand on avait la planification de ces calendriers, on devait s'assurer est-ce que la CENI avait ses moyens. La CENI n'avait pas ses moyens. La raison pour laquelle on parle de report au report. En ce qui concerne le dépôt, le report du dépôt de calendrier, des opérations du dépôt de candidature à la députation provinciale, c'était prévu du 15 avril au 6 mai. On est parti, on a fait premier report du 25 mai au 30, premier report au 25 jusqu'au 25 mai, deuxième report jusqu'au 30 mai. Et ici, nous devons dégager triple impact de ce report. Il y a impact temporel. Le temps qui est prévu pour ces opérations va avoir des conséquences sur le reste des autres opérations. Tandis que les autres opérations, à ce moment-là, ne seront pas respectées. Et ça va faire basculer les autres opérations. Et facteurs financiers. Ici, nous nous rendons compte que la CENI ne dispose pas les moyens financiers pour faire face à ces opérations. Parce que ceux qui étaient prévus pour le 15, les gens, le président, le rapporteur vient de parler, il y a 171 bureaux de récepteurs de traitement. On a recruté les gens. On les avait recrutés pour une durée donnée du 15 avril au 6 mai. Il n'y avait pas un budget additionnel pour cela. Et on vient encore d'aller jusqu'au mois de 30. Est-ce qu'il y a un budget additionnel pour cela? Voilà l'impact financier. Et maintenant, l'impact politique, ça relance maintenant le débat politique. Les uns soutiennent le report, les autres sont contre ce report. Et donc, nous allons dans un processus électoral plein de polémiques et de contradictions. Est-ce qu'on va s'en sortir? Nous disons, il faut quand même faire pause, il faut s'arrêter pour dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit marcher.
Alors, Jérôme Bonceau, la CENI ne fait-elle pas preuve de réalisme quand elle se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés, comme a dit le rapporteur? N'est-elle pas réaliste, la CENI?
Oui, les difficultés étaient prévisibles, parce que les difficultés n'ont pas été intégrées dans la planification. Parce que dans la planification, on n'a pas donné le moyen à la CENI pour faire respecter les paramètres moyens financiers. Et ici, l'autre difficulté que la CENI va rencontrer, c'est les difficultés temporelles. Et la CENI aura difficile. Parce que toutes les opérations qui sont programmées ici jusqu'à publication des listes de cas de conseils et de suite, toutes ces opérations ne seront pas exécutées à temps réel. Ça va avoir des répercussions sur le reste. Et c'est là que nous avons peur. Parce que dans ce calendrier électoral publié par la CENI, nous devons retenir des dates importantes que la classe politique, majorité et opposition, que le parti prenant au processus électoral doivent se saisir pour que la date du 27 novembre 2016, la date de convocation de l'élection combinée, élection présidentielle et la députation nationale, et la date du 12 décembre 2016, prévue pour la prestation de serment du président élu, ces deux dates doivent être respectées, quelles que soient les turbulences. Parce que nous savons que le reste des élections, même les élections locales qui sont programmées, vont souffrir. Parce que les opérations ne seront pas exécutées dans le délai arrêté par la CENI.
Merci. Professeur Emmanuel Kabongo, vous êtes analyste et professeur en philosophie politique de l'Université pédagogique nationale UPEN. Vous venez de suivre Jérôme Bonceau. Professeur, comment vous analysez cette nouvelle prolongation?
Merci beaucoup pour m'avoir invité à participer à cette émission. Je salue tous les participants. Ce que je voudrais d'abord relever, c'est que constitutionnellement parlant, le seul moment de souveraineté du peuple congolais, c'est le moment électoral. Donc les élections constituent pour nous, un moment électoral, un moment de souveraineté important qui mérite toute notre attention et l'attention de la classe politique, l'attention des acteurs. Bon. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est le fait que toutes les contradictions qui paraissent ici, dont on parle, contradictions au niveau de la CENI, contradictions avec la classe politique, ces contradictions sont les symptômes d'une nation fissurée. En fait, depuis les élections de 2006-2011, il y a eu toujours des contestations, aussi bien dans la préparation au moment des élections elles-mêmes. Il y a eu des contestations même au moment, n'est-ce pas, de la proclamation des élections. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui représente, à mon avis, une nation fissurée où les gens, les acteurs politiques, leur peuple n'ont pas une unité psychique, n'ont pas une unité politique, une unité sociale. Et cela montre la faiblesse de notre nation. Tout ce qui se dit là, tout ce qu'on raconte, tout ce que la CENI fait, toutes les déclarations de l'opposition, toutes les déclarations péremptoires de la majorité, démontrent que les gens ne s'entendent pas. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et je crois que, comme Jérôme Bons le dit, nous risquons d'avoir encore des ratés électoraux, comme on en a vu en 2010, comme on en a vu en 2011. Je crois, à mon avis, qu'il est temps que les gens, que le Congolais, que la classe politique, que le peuple congolais, les acteurs majeurs puissent essayer d'avoir un accord, un consensus. On ne peut pas aller aux élections sans consensus. Donc je suis peiné, je remarque que nous risquons encore de nous retrouver avec un peuple congolais. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas engouement pour les dépôts des candidatures, pour les élections provinciales, alors que ce sont des élections les plus importantes. Ce sont ces élections qui vont donner des gouverneurs, ce sont ces élections qui vont donner des sénateurs. Il n'y a pas d'engouement. C'est comme si dans son fort intérieur, le peuple congolais a intériorisé tous ses ratés électoraux des années précédentes et s'est dit, mais même si j'y vais, même si on fait ça, on arrivera à quoi?
Professeur,
oui.
Vous évoquez la question des candidatures sur 8000 dossiers retirés. Il n'y a que 2000 candidatures qui ont été effectivement déposées. Vous dites que le peuple a intériorisé tous les ratés électoraux. Mais professeur, d'autre part, ne pouvons-nous pas dire que le peuple congolais a pris la véritable mesure de ce que c'est qu'une élection?
Mais écoute, si le peuple avait pris la véritable mesure de ce que c'était une élection, c'est-à-dire si le peuple concevait l'élection comme un véritable moment de changement politique, comme un véritable moment de renouvellement du sang politique, le peuple, il y aurait un engouement. C'est-à-dire, on aurait, comme là, pour 6000 espaces, pour 6000 places données, on en trouverait même 12000. Et là, vous voyez, il y a un déficit. Ça signifie qu'il y a... il y a comme une sorte de déception, c'est-à-dire les gens, parce que peut-être que les gens ne se rendent pas compte de tous ces mécanismes, comment ça fonctionne dans un peuple. Quand un peuple va dans une élection et on lui amène des résultats qui ne reflètent pas sa propre pensée, qui ne reflètent pas son propre poids électoral, ce peuple fait semblant d'ignorer ou d'oublier, mais ne l'oublie pas. Dans son fort intérêt, dans sa mémoire collective, dans son imaginaire, il y a toujours comme une tâche qui se met dedans. Et il commence à, tout d'un coup, il est déçu, il ne porte pas les élections dans son cœur. Regardez partout dans les pays du monde où les nouveaux partis, on l'a vu en Espagne, c'est le Podemos, les nouveaux partis, comme on a vu dans les pays qui ont beaucoup de difficultés comme les nôtres, il y a toujours une nécessité historique de renouveler la classe politique pour que ça change. Mais avec tout ce qui s'est fait là, les peuples se rendent compte que ce sont les mêmes qui sont là, les difficultés continuent, les pays sombres, et ce sont les mêmes qui, depuis 2006, 2011, sont là et le peuple se retire. Donc moi, je pense que l'engouement ne se justifie pas du fait qu'ils ont pris la bonne mesure des élections, mais au contraire, ils expriment profondément une déception au niveau de la mentalité collective. Donc
merci.
C'est toute la collectivité qui est déçue, quoi.
Merci, professeur. Professeur Joseph Moudimbi, vous êtes professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur, vous avez suivi Jérôme Bonsoy et Emmanuel Kabongo qui craignent qu'on ait des ratés électoraux. Professeur, comment vous analysez cette nouvelle prolongation? Est-ce un problème qui découle des difficultés, comme le dit la CENI, où il faudrait absolument un consensus au niveau de la classe politique pour que ça aille mieux?
Et merci beaucoup pour la question que vous venez de me poser. Mais d'entrée de jeu, je voudrais relever un fait. La prolongation que nous venons encore d'observer est une manifestation éloquente de la gestion par défi qui caractérise la CENI. La CENI, par définition, bon, nous l'entendons comme Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais ici préciser que l'indépendance de la CENI ne signifie pas son insensibilité aux forces politiques en présence. Donc la CENI doit éviter pratiquement de gérer pour la CENI. La CENI doit gérer pour la société congolaise. On avait demandé à cette commission-là de présenter un calendrier global et la CENI l'a fait de manière unilatérale sans tenir compte des avis des uns comme des autres. Et si ma mémoire elle est très bonne, il y a le président de cette commission, l'abbé Malumalu, avait déclaré haut et fort que le calendrier électoral ne subira aucune modification. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Et vraiment, on se rend compte que, bon, la décision prise par la CENI, c'est un problème c'est une décision irrationnelle. Or, en matière de théorie des organisations, il y a des auteurs qui soutiennent haut et fort que gérer, c'est décider. Et tant qu'on ne sait pas décider correctement, on ne sait pas décider de manière rationnelle, alors cela signifie que on ne sait pas aussi gérer. Alors, je voudrais préciser une chose, que le manque d'engouement est une aussi expression de manque de consensus entre acteurs politiques. Vous comprenez que le camp de la majorité a tendance à soutenir cette prolongation. Le camp de l'opposition s'y oppose, c'est tout à fait évident parce que quand on est au pouvoir, le discours que l'on tient, c'est souvent un discours légitimateur. Et quand on est dans l'opposition, on a tendance à tenir un discours tendant à ternir l'image, à ternir les actions qui sont posées par les membres du gouvernement. Et c'est pratiquement ça. Mais je crois que nous avons plus intérêt à gagner dans un environnement consensuel plutôt que d'assurer ou de gérer les affaires vraiment par défi. Et je crois que ça, ce n'est pas bien, ça ne va pas tellement nous avancer. Bon, à un certain moment, j'ai pu comprendre que si nous suivons très bien le parcours de ce processus électoral, l'opposition avait des atermoiements pour déposer la candidature parce qu'estimant qu'il y a certaines conditions qui n'étaient pas encore respectées. Alors, ça peut se comprendre que c'est en fonction de ça qu'il y a beaucoup de réserves pour pouvoir déposer les candidatures, mais je sais que l'opposition, si elle s'en tient seulement à ça, elle risque de tomber dans une erreur, parce que pour l'opposition, la grande bataille, ce n'est pas vraiment la grande bataille est focalisée autour des élections présidentielles, donc on voit plus la personne du président de la République.
Professeur.
Ce qui n'est pas du tout bien, et pourtant il y a encore beaucoup à gagner au niveau des élections locales comme aussi au niveau des élections provinciales.
Professeur.
Mais je ne néglige pas l'aspect des élections présidentielles, mais je suis sûr, et c'est ma crainte, c'est de voir que cette prolongation puisse servir de jurisprudence pour les autres élections.
Alors, professeur, il y a certains observateurs qui pensent que le peu d'engouement observé est lié notamment au fait que les partis politiques n'ont pas d'argent, ils ne sont pas financés, et que cela remettrait sur la table la question du financement des regroupements politiques en RDC.
Voici, ça c'est vraiment c'est un faux prétexte, parce que les élections, les élections de 2016, bon, ce n'est pas une surprise. Ces élections avaient été programmées. On sait maintenant qu'après 5 ans, on doit se préparer à de nouvelles élections. Les partis politiques pendant 5 ans, où étaient-ils pour se présenter? Bon, je crois que c'est un alibi tout simplement.
Alors, professeur, il y a beaucoup d'observateurs d'observateurs qui se posent la question de savoir mais pourquoi au Congo nous n'attendons que la dernière minute pour déposer des candidatures. Hier et dimanche, c'était une véritable bousculade.
Oui, c'est une culture qui s'est instituée au pays, mais je crois que il faudrait casser pratiquement. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de règles et procédures. Ces règles doivent être scrupuleusement respectées, observées. Mais il s'avère que pour le moment, et c'est ça l'habitude en RDC, on est toujours habitué à certaines prolongations. C'est ainsi que les gens tardent toujours les pas, tout ça, et estimant que non, il y aura encore une possibilité qui nous sera offerte. Et nous le constatons même au niveau de nos étudiants. On fixe une date pour le paiement, par exemple, de Minerval. Mais les étudiants n'attendront que le dernier jour parce qu'ils savent que, bon, finalement, on finit toujours par élargir un peu. C'est une habitude que nous avons déjà instituée dans notre pays. Mais à un moment donné, il est bien séant de prendre une décision courageuse lorsqu'on a fixé les échéances et on les respecte.
C'est
pourquoi j'insiste encore sur la notion de la rationalité des décisions. C'est-à-dire quand on a pris une décision, on a étudié tous les paramètres et lorsque la décision est annoncée, il ne reste que à l'appliquer à la lettre.
Merci professeur Jérôme Bonsoya. Pour vous, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Mapori qui est de Bukavu au sud Kivu. Pourquoi la CENI va de prolongation en prolongation comme si elle se livrait à la complaisance avec les retardataires? Où est le mal si les candidats sont peu nombreux? Et dans tout cela, y a-t-il encore raison d'espérer que le temps réparti par le calendrier électoral sera respecté dans toutes les étapes? On ne le dira jamais assez. Le non-respect du temps est parmi les grands maux congolais qui ne vont pas sans conséquences fâcheuses.
Voilà, qui est 1000 candidats, Jérôme Bonsoy, qui en est 7000, où est le problème de la CENI?
Oui, le problème réside au niveau de l'exécution de la gouvernance électorale. Parce que la CENI, en date du 12 février 2015, quand elle a publié le calendrier, et la CENI a établi des responsabilités. La CENI avait demandé au gouvernement de faire une préparation du projet de répartition des sièges prévu du 10 mars au 21 mars 2015. Et nous avons fait le constat selon lequel nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2015. Le gouvernement n'a rien fait. La CENI a demandé au Parlement de faire examen et adoption de la loi portant répartition des sièges pour des élections communales et locales prévues du 22 mars au 5 avril 2015. Comme ça, nous sommes aujourd'hui le 26 mai. Rien n'est fait. La CENI a demandé au président de la République, en tant qu'institution, de faire la promulgation de la loi portant répartition des sièges pour des élections communales et locales prévues du 6 avril au 20 avril. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai. Le président de la République n'a pas publié la loi et la CENI a demandé l'audit externe du fichier électoral. Le 22 mars au 12 avril 2015, nous sommes aujourd'hui le 26 mai, rien n'est fait, et c'est pourquoi nous disons ça vient s'ajouter maintenant les deux prolongations de dépôt de candidature, et tout ça fait de sorte que le calendrier électoral, c'est comme le professeur vient de le dire, le calendrier électoral doit impérativement subir des modifications à l'heure qu'il est, parce qu'on ne saura pas, on ne va pas s'en sortir. Et par quel mécanisme? Le professeur Emmanuel Kabongo l'a si bien dit, le professeur Joseph Moudimi vient de le dire, ici si nous avons réussi les élections, pas réussi, si nous avons pu tenir les élections de 2006, c'est parce qu'il y avait un consensus électoral large et solide. de ce consensus, on a accepté les résultats, tant bien que c'était de mauvais résultats. On a dit, on va améliorer en 2016, en 2011. On arrive en 2011, au lieu d'améliorer, nous avons affaibli, nous avons fait partir le consensus qui existait. Et c'est pourquoi nous disons, comment s'en sortir avec un calendrier tel que présenté par la CENI, ça ne relève plus de la compétence de la CENI de charcuter ce calendrier électoral, ça relève de la compétence de la classe politique toute tendance confondue et de forces vives. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons toujours invité la classe politique congolaise à s'investir dans la reconstruction du consensus électoral. Et ce consensus électoral va nous aider à voir dans quelle mesure nous pouvons dicter une décision politique à la Commission électorale nationale indépendante en tant qu'une institution technique et non une institution politique, de voir dans quelle mesure nous pouvons nous en sortir. Parce qu'à ce moment, les gens disent, le consensus va porter sur quoi? Si on va dégager un consensus, va porter sur le recadrage du processus électoral. Avec les motifs, recadrage du processus électoral, et aussi penser à donner le contenu à l'alternance politique qui va s'opérer le 20 décembre 2016. Quel contenu nous allons donner? Parce que c'est clairement dit au niveau de la Constitution, la loi fondamentale, le président de la République ne va plus se représenter, mais c'est lui qui va le remplacer. Quel contenu va donner à l'alternance? Se voir le président Kabila partir et lui le remplacer? Ou bien, qu'est-ce qu'il va donner?
Alors, Jérôme Bonso, il y a l'honorable Ayoba Nguera, élu de Massissi, qui nous écrit et dit « Cette prolongation que la CENI accorde nous ridiculise tous devant la communauté tant nationale qu'internationale. Si la CENI représente toute la classe politique congolaise, société civile, opposition et majorité, elle doit savoir que si un candidat n'est pas prêt à déposer sa candidature dans les délais impartis par la CENI, cela veut dire qu'il n'est pas prêt à assumer les responsabilités auxquelles il postule. » En 2011, on s'était plaint qu'il y avait trop de candidats, mais là, il y a moins de candidats et on pense que ça pose encore problème, Jérôme Bonso.
Oui, ici, la meilleure raison, la prolongation nous ridiculise. Non, ce sont les élections qui nous ridiculisent. Les élections, la débâcle électorale de 2011, ça nous a ridiculisés à la face du monde. Quand on sort, nous qui avons un peu la chance de sillonner les différents continents, européens, américains, africains, asiatiques, quand on vous pose la question, vous venez de la RDC, mais quel genre d'élection vous avez organisé en 2011, ça devait faire honte à la classe politique congolaise, toute tendance confondue. Mais cette même classe politique parle comme si elle n'a pas été à la base de la débâcle électorale de 2011. Elle veut nous faire vivre encore la même débâcle aux élections de 2016. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous devons, en ce qui concerne ce processus, nous devons voir les choses en face. Qu'est-ce qui est faisable à l'heure qu'il est? Est-ce qu'il y a des moyens financiers disponibles? Est-ce que le facteur temps et le temps est avec nous ou bien le temps nous a déjà tourné le dos? Nous disons ici le temps nous a déjà tourné le dos parce que nous n'avons pas pris le soin de cheminer ensemble avec le temps. Et c'est pourquoi nous disons, pour nous en sortir, nous répétons, il faut recourir à la reconstitution du consensus électoral.
Il faut le dialogue.
Le dialogue, oui.
Par exemple, celui que demande le président de la République.
Le politicien peut parler du dialogue et va connaître le contenu qu'il va donner au dialogue. Mais si il faut aller au dialogue, c'est pour dégager le consensus, avoir le même entendement. Parce qu'une des vertus des élections démocratiques, c'est la résolution pacifique des conflits. Mais nous voulons aller aux élections avec des conflits, pour en sortir avec des conflits. Merci. Et c'est après les dégâts qu'on va se mettre autour d'une table pour dégager un consensus. Là, ça sera inacceptable. Inacceptable.
Merci. Professeur Emmanuel Kabongo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Alphonse Boudili Guéré, depuis Arou, en district de l'Ituri. La prolongation du dépôt de candidature pour la députation provinciale est cela pour la deuxième fois été signe qui présage un glissement pur et simple, autrement dit c'est l'arbre qui casse la forêt. Si la CENI sait que plusieurs de ces contraintes liées au calendrier électoral global n'ont pas de réponse, pourquoi elle ne les révisite pas ou ne met pas la tête sur les élections prioritaires? Quel est le vrai blocage de la CENI? Pourquoi ne pas les prolonger dans les berges ceux qui ont réellement connu des difficultés palpables au lieu de les généraliser sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo?
Réaction, professeur Emmanuel Kabongo.
Oui, je crois que la réaction est la même. Les gens sont désarçonnés face à ces multiples prolongations et ils commencent à se convaincre qu'effectivement, nous allons vers les glissements comme les termes et les termes selon les termes consacrés. Ce qui est vrai dans tout ça est que la classe politique congolaise, le peuple congolais lui-même a assume très faiblement ce qu'on appelle l'autonomie de la conscience politique. C'est-à-dire, l'autonomie de la conscience politique signifie qu'un peuple est capable, un peuple et sa classe politique et ses élites sont capables de prendre en main les affaires nationales et de prioriser, dans l'exécution de ces affaires nationales, de prioriser ce qu'on appelle l'intérêt général ou l'intérêt national. Mais nous remarquons ici au Congo que depuis déjà plusieurs décennies, nous avons perdu cette autonomie, n'est-ce pas, de la conscience politique, parce qu'il y a trop d'intervenants, n'est-ce pas, dans les affaires politiques congolaises. Parfois, nous oublions que ce pays est géré par un accord international, qu'il y a un accord international qu'on appelle l'accord de cadre de coopération d'Addis Abeba, qui fait intervenir beaucoup de pays, des pays qui nous entourent, beaucoup d'institutions internationales dans nos affaires. Et que de cela relève ce qu'on appelle une certaine incapacité de notre gouvernement à agir en tant qu'un gouvernement devant gérer les affaires de façon autonome. Vous avez dit, on a vu tout à l'heure que depuis 5 ans, on attendait les élections. Pour nous, le gouvernement aurait pu préparer, n'est-ce pas, un budget pour ces élections. Mais nous avons un gouvernement, nous avons une CENI qui dépend d'un budget. D'une part, il faut que la communauté internationale intervienne. D'autre part, il faut que le gouvernement mette les moyens, qu'il y met très peu. Et tout ça, ça désarçonne, ça démontre que nous ne sommes pas encore arrivés à une sorte de capacité autonome de prise en main des affaires nationales. Professeur, même pour ceux qui arrivent ici, vous verrez qu'au fond, c'est un problème de budget national. Le gouvernement a donné très peu d'argent. Le gouvernement ne donne pas l'argent aux partis politiques, alors que nous avons une constitution qui prévoit que les partis politiques, les organisations politiques doivent être, n'est-ce pas, comme partout ailleurs, n'est-ce pas, financées, parce que ce sont des organisations qui ont un caractère social profondément.
Professeur.
Mais honnête personne. Donc, je voudrais ici dire à notre ami que les ridicules, là, c'est ce qui est devenu la culture du Congo. Nous sommes ridiculisés. Et nous devons aujourd'hui nous battre pour reconstruire une véritable culture nationale.
Professeur,
oui.
Il y a Jarbonne Buisengo, cet internaute qui dit, il y a déjà un problème qui doit nous alerter. Les élections, c'est quelque chose de très sensible. Mais voir ce qui se passe, je crois qu'il faudrait faire rapidement une conférence nationale et un dialogue national en toute urgence. Sinon, on risquerait de plonger le pays dans un gouffre. Au lieu d'aller avec les choses dans une situation malsaine, vaut mieux stopper, sensibiliser et puis réorganiser les choses. Tout cela demande un dialogue entre les partis politiques. Faudrait-il ce dialogue dont parle le président de la République, quelle forme doit-il prendre? Jérôme Bonso disait qu'il doit concerner le recadrage du processus électoral. Il faudrait également donner un contenu à l'alternance.
Oui. Je crois que tout le monde est pour un dialogue, n'est-ce pas? Mais je rappelle ici que c'est depuis le 61 que nous avons entamé le cycle de dialogue. Nous sommes dans un cycle infini de dialogue dans notre pays. En 61, on est parti à Tananarive, on est rentré à Louvagnum, nous sommes partis à la constitution de Louabourg, et tout ça, nous sommes aujourd'hui au 6e cycle de dialogue, sans que le peuple congolais ait retrouvé ce qu'on appelle une véritable unité physique et psychique qui est fondatrice d'un peuple. Donc, j'ai dit, nous risquons, nous allons avoir un dialogue. C'est indispensable, c'est même une nécessité, on l'aura. Mais elle va aboutir à quoi tant que ces pays, nous n'avons pas encore cette unité psychique. Nous vivons comme si nous étions, n'est-ce pas, des simples populations, mais pas comme un peuple. Nous vivons avec trop d'intérêts divergents. Les gens regardent d'un côté, les autres regardent, alors que nous sommes ensemble depuis l'indépendance, depuis plus de 55 ans. Nous n'avons pas formaté des véritables consensus qui sont fondateurs d'un peuple. Donc moi, je dis le dialogue, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable, comme dit Jérôme Bonso. Je rappelle ici que ce dialogue n'est pas demandé par le président de la République. Il y a presque 6 mois que Tshisekedi, le président du UDPS, avait écrit à la MONUSCO, à Kobler, pour demander un dialogue selon un processus prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc c'était un dialogue qui est demandé aussi bien par l'opposition que par la majorité présidentielle, et nous pensons que ce dialogue est indispensable.
Merci. Merci, professeur. Professeur Joseph Moudimbi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Ce report traduit déjà un échec du processus électoral et le langage de la CENI qui prépare un glissement pour ceux qui sont au pouvoir. Elle doit revenir à sa décision et chercher un consensus avec toutes les parties, opposition, société civile et majorité, afin de sauver les pays qui risquent de plonger dans le chaos.
Professeur Moudimbi, doit-on craindre le pire?
Okay, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'intervenant pour son analyse. Effectivement, il me rejoint lorsque je parle encore de l'irrationalité dans la prise de décision de la CENI. Mais ce qui est évident, c'est que, bon, c'est vrai, il y a des voix qui s'élèvent à gauche, à droite, pour le dialogue. Mais je voudrais dire ceci, au sujet du dialogue, par exemple. Nous avons compris que le dialogue est toujours réclamé par un camp lorsqu'il se retrouve dans une situation de faiblesse. Et le professeur Jérôme a dit ici que, bon, voilà, lorsque Tshisekedi avait demandé en son temps le dialogue, le camp de la majorité n'avait pas accepté. Et aujourd'hui, c'est le camp de la majorité qui demande ce dialogue et il y a une partie de l'opposition qui n'accepte pas. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme la leçon? Aujourd'hui, en RDC, on convoque le dialogue non pas dans le souci de résoudre les problèmes fondamentaux de la population, mais le dialogue est devenu comme un mécanisme de positionnement d'un camp en difficulté. Alors, c'est ainsi qu'on peut encore organiser un dialogue aujourd'hui, mais le dialogue n'aboutira à rien. Moi, ma crainte, c'est que on peut organiser un dialogue, mais ce dialogue-là conduit pratiquement à la mise en place d'un gouvernement, bon, parce que les Congolais sont très champions, dans les terminologies à utiliser. C'est pas si on parlera de gouvernement de large union nationale ou quoi, etc., etc. Alors, finalement, donc, on organise un dialogue, mais dans l'entretemps, bon, il y a des gens qui se précipitent pour avoir des postes à gauche, à droite. Moi, j'aurais préféré, je suis d'accord pour le dialogue, mais que l'on puisse définir le contenu même du dialogue.
Professeur,
oui, je vous écoute.
Oui, souffrez que je vous arrête à ce niveau-là. Quand vous parlez du contenu du dialogue, Jérôme Bonso a fait une proposition concrète qui consiste par exemple à parler du recadrage du processus électoral et à donner un contenu à l'alternance politique à la tête de la nation. Cela ne pourrait-il pas, ces deux aspects ne pourraient-ils pas cadrer suffisamment ce dialogue?
Bon, moi, oui, je suis d'accord avec lui sur la redéfinition même peut-être du calendrier électoral. Mais quant à la définition du contenu de l'alternance, bon, moi, l'alternance, ça c'est un des principes fondamentaux d'ailleurs de la démocratie libérale. Donc, quand on a le pouvoir, on ne doit pas considérer le pouvoir comme étant son affaire propre. On ne doit pas considérer le pouvoir comme étant définitif. On est locataire, on exerce les fonctions politiques pendant un mandat bien défini par la Constitution, et après cela, on cède la place à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que vraiment la définition de l'alternance du pouvoir soit vraiment une nécessité pour le moment, parce que on sait le contenu de l'alternance. Mais j'aurais préféré que, peut-être au niveau du dialogue, qu'on puisse bien redéfinir au regard des difficultés que la CENI rencontre, des difficultés d'ordre technique, des difficultés d'ordre financier, qu'on puisse recadrer, que l'on voit qu'est-ce qui est réellement faisable. Et aujourd'hui, la classe politique, surtout l'opposition, a pris goût de négliger les élections provinciales et les élections locales, mais la chasse gardée, ou la cible visée, c'est le président de la République.
Professeur,
est-ce que tous les partis politiques de l'opposition peuvent être à mesure, d'ailleurs l'opposition n'est même pas encore unanime sur la candidature, peut-être unique, bon, est-ce que l'opposition, les partis politiques d'opposition sont-ils d'accord, sont-ils sûrs de remporter les élections, ou chaque parti politique est-il vraiment sûr d'avoir un candidat qui présente des garanties suffisantes de gagner ces élections présidentielles?
Merci, professeur. Professeur, voilà, Jérôme Bonso, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Et donc, à ce niveau, la seule voie de sortie pour un processus électoral apaisé reste le dialogue.
Oui, vous savez, il y a un révérend père Léon de Saint-Moulin a dit quelque chose d'intéressant. Léon de Saint-Moulin disait, s'il n'y a pas de consensus sur la base de l'organisation des élections, il est inutile de les organiser car elles ne constitueront pas la base de légitimité qu'on veut donner au pouvoir. Et ici, nous devons inviter les uns et les autres à nous, pour nous en sortir, nous devons recourir à un processus électoral consensuel et apaisé. Parce que la solution, c'est quoi? C'est arriver aux élections apaisées. Et c'est de parvenir à faire face au défi de l'acceptation des résultats. Parvenir à faire face au défi opérationnel. La CENI rencontre d'énormes difficultés. La CENI a autant de défis à répondre. Pour y faire, pour y arriver, il faudrait qu'on dégage ce consensus. Mais si on va s'entêter par les uns, un groupe ou un autre, pour dire en 2015, nous allons organiser les élections de 2015 et de 2016, c'est un consensus, on va se casser, on va se cogner. Et c'est pourquoi nous disons, ça servirait à quoi de nous amener aux élections quand on sait qu'il y a autant de conflits? Ça nous servirait à quoi à avoir l'élection de 2016 ou surtout l'élection présidentielle pour connaître la situation encore de 2011 où nous avons assisté à la prestation de serment de 2 candidats. Et ça donne quelle image pour la République du Congo? Et c'est pour dire, nous avons en tant qu'êtres humains, nous avons la faculté d'améliorer les prochaines élections. Nous n'avons pas amélioré en 2011, mais en 2016, nous avons l'obligation d'améliorer ces élections pour ne pas être humiliés. Je dirais ceci, la réussite des élections dépend de consensus électoral politique, de la sécurisation des opérations électorales et des défis logistiques et techniques. Là, c'est pourquoi nous disons que les uns et les autres, nous le répétons, nous devons nous investir dans la reconstruction du consensus électoral large et solide pour arriver aux élections apaisées.
Merci. Professeur Emmanuel Kabongo, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral?
Oui, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que dans les années 60, Mabika Kalanda craignait que l'absence d'une grande conscience nationale au Congo, l'absence d'une grande conscience historique ne puisse constituer des goulots d'étranglement, dans la construction d'une nation au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, on se rend compte, 50 ans après, et d'ailleurs c'est le cinquantenaire de la remise en question des livres, les fameux livres de Mabika Kalanda, on se rend compte qu'effectivement, le Congo, les Congolais ne constituent pas vraiment un véritable peuple, c'est-à-dire un peuple conscient comme propriétaire d'un sol, d'un sous-sol qui s'appelle le Congo, avec une classe politique consciente comme ayant une responsabilité historique pour amener ce peuple au développement, au bonheur, parce que nous sommes un réservoir mondial des minerais. Et ça conduit à tout ce que nous voyons ici, c'est-à-dire chaque fois dans des moments cruciaux, au moment où un peuple et sa classe politique démontrent sa capacité de prise en charge du destin national, nous, on se bat, on se trouve, on cherche des consensus. C'est vrai, le processus électoral aujourd'hui est lié à un consensus, c'est-à-dire à un accord qu'il faut que cette classe politique, n'est-ce pas, trouve dans un dialogue.
Un mot, professeur, en guise de conclusion.
Oui. Je crois que dans un tel dialogue, il n'y a pas de sujet tabou. On va parler aussi bien de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il fera après de 2016, qu'est-ce qu'on va donner comme garantie. Donc on doit parler de tout, et dans le respect, n'est-ce pas, en prenant l'intérêt général. Merci. Comme le socle de tout cela.
Professeur Joseph Moudimbi, conclusion, comment vous entrevoyez la suite de ce processus?
Ok, merci beaucoup. Je dis ceci, que lorsque vous êtes sur une route, vous sentez que la route, elle est très rocailleuse, il est toujours bienséant de vous arrêter à un moment, de réfléchir et d'envisager une solution qui soit la meilleure possible. Pour le moment, les pays, la CENI, connaît de sérieuses difficultés. Je crois que nous ne pouvons pas la laisser évoluer dans cet élan-là. Il est bien séant qu'on se mette autour d'une table, qu'on voit les moyens disponibles et qu'on dise que ces moyens pourront nous permettre de réaliser quoi au juste.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.